La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous dans ce temps de culte, en ce premier dimanche de l'Avent. Bien que les lieux de culte puissent à nouveau recevoir du public jusqu'à 30 personnes, notre temple est resté fermé pour ne pas avoir à choisir qui pourrait y entrer. Et nous sommes ce matin avec le chœur de l'Oratoire du Louvre pour vivre ce moment si important. Nous restons en communion par la musique, le partage de la Bible, bien sûr la prière, tout cela relayé par nos réseaux sociaux. Et nous accueillons avec joie tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce matin, tous les choristes qui sont là et qui vont, avec Sarah Kim, notre organiste, nous conduire dans la prière et le chant avec leur chef de chœur, Fabien Aubé, voilà. J'allais t'appeler Meister. Je passe la parole à ma consœur Agnès.
Merci Béatrice. Nous continuons à prendre soin les uns des autres en respectant bien sûr les consignes de sanitaire obligatoires. Et nous associons à ce temps de culte toutes les personnes qui vivent actuellement un deuil de leurs proches en cette période difficile. Nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent et qui sont dans divers pays. Merci de votre présence fidèle et de votre soutien. En ce premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence. Et nous en marquons symboliquement le début en allumant la première bougie de cette couronne de l'Avent. Dieu vient, ce sont les mots habituels du temps de l'Avent. Dieu est avec nous, c'est la musique habituelle de Noël. Une question demeure cependant, est-ce que cela change quelque chose dans notre vie ? En particulier dans ce contexte si douloureux de celui de la pandémie ou de cet étrange confinement. Prions ensemble. Éternel, nous voici en ce jour rassemblés, jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'ils se saisissent de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Que notre façon de vivre et de penser soit bousculée et qu'avec ta présence, puissions-nous faire toutes choses nouvelles. Amen.
Et ce matin, nous cheminons avec le prophète Ésaïe et je vous invite à louer Dieu avec ce passage du prophète Ésaïe. Ce jour-là, tu diras « Je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. » Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et je vous invite à entendre et peut-être aussi à chanter chez vous le psaume 67b. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
Ensemble, prions. Mon Dieu, il y a tant de choses qui ne sont pas des fautes, mais simplement des difficultés, des nœuds, des vagues dans lesquelles nous nous sentons emportés et où nous perdons pied jusqu'à nous noyer sans savoir pourquoi. Il y a tant de choses qui arrivent sans que nous l'ayons cherché, ni voulu, ni compris. Et peu à peu, voici que nous nous asphyxions dans le trouble, le regret, le remords et le noir. Nous te prions pour tout ce qui n'est pas une faute et qui pourtant est devenu une détresse et une culpabilité. Nous t'en prions, viens alléger et fortifier nos vies et la vie du monde entier. Nous t'en prions, tiens-nous debout. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta main et qui te dit : sois sans crainte, je viens à ton secours. Voici, frères et sœurs, la déclaration de confiance que le Seigneur a faite au prophète Ésaïe, à laquelle le psalmiste répond : Seigneur, je suis toujours avec toi, car tu m'as saisi la main droite. Placés sous la protection du Père, comme ces enfants que Jésus embrassait et bénissait de ses mains, nous recevons de lui sa grâce. Dieu le premier nous a tendu la main. Il nous invite à notre tour à tendre la nôtre en signe de communion à nos frères, à nos sœurs qui veulent poursuivre sa mission. Chantons à Dieu notre reconnaissance et nous prendrons maintenant dans le cantique Louange et prière, le numéro 179, dont nous chanterons les trois strophes. et nous confessons maintenant notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Ce matin, en ce premier dimanche de l'Avent, nous lisons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-lui, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. Nous prions ensemble. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à nos cœurs. Que par ton esprit, l'écriture que nous avons écoutée devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme les arbres de la forêt sous le vent. Voilà ce qu'on lit dans le prophète Ésaïe au chapitre 7, un peu plus tôt. Voici la situation du roi de Jérusalem au moment où Ésaïe va prononcer cette promesse. Un enfant qui sera le signe de la présence de Dieu va naître. Le peuple d'Israël est alors coupé en deux, et le royaume du nord, dont la capitale est Samarie, veut attaquer son frère, le royaume du sud, pour le forcer à entrer dans la coalition avec l'Égypte contre l'Assyrie, qui marche vers la Palestine et menace de tout écraser sur son passage. Dans ce climat de guerre, retentit cette promesse formidable : un enfant va naître et on l'appellera Immanuel. Dieu avec nous. Que pourrait un enfant contre la guerre? Cet enfant est signe de paix, d'avenir. Il représente le salut de Dieu pour la dynastie davidique. Mais de quel enfant parle-t-on? En ce premier dimanche de l'Avent, impossible de ne pas penser que celui que Dieu promet comme prince de paix pour Jérusalem est le Messie, celui que les chrétiens connaîtront en la personne de Jésus. Pourtant, le prophète Ésaïe ne parle pas d'un être qui naîtra des siècles plus tard. Il parle d'un enfant bien réel, bien contemporain de son époque, et qui n'est autre que le fils du roi. Un descendant mâle est pour la dynastie davidique le signe qu'elle ne s'éteindra pas, car Dieu est avec elle. La jeune fille qui enfantera est en fait la jeune reine. Il n'est pas dit en hébreu qu'elle est vierge, mais seulement que c'est une jeune reine, une jeune fille. La Septante, la version grecque de la Bible, a traduit en grec par vierge, mais le texte d'Ésaïe en hébreu ne le dit pas. Ainsi, cette naissance devient miraculeuse au fil des siècles et des traductions, retenant l'œuvre de salut de Dieu pour son peuple à travers le motif des matriarches stériles qui enfantent, quand bien même il y aurait des impossibilités, Dieu donne une descendance à toutes ces femmes, et les vierges mettent au monde des rois, tels que la prophétie l'annonçait. La chrétienté va retenir cette prophétie d'Ésaïe que l'on retrouve citée dans l'évangile de Matthieu, et elle construira le motif miraculeux de la Vierge qui enfante jusqu'à ériger ce signe en prophétie, mais surtout en dogme de l'Église. Mais le récit historique est, une fois n'est pas coutume, plus miraculeux que tous les récits de miracles de la Bible. Alors que les Assyriens marchent sur Samarie et annexent le royaume du Nord, qui n'a pu résister malgré l'aide de l'Égypte, une épidémie de peste va décimer les Assyriens et permettre au royaume du Sud, et donc à la dynastie de David, de perdurer encore pour un temps. L'épidémie va empêcher que l'invasion commencée par les Assyriens n'arrive jusqu'à la ville sainte. La paix pour un temps au moins, est offerte au peuple de Jérusalem. La naissance du prince est entourée des motifs de salut que la tradition retient pour parler de la terre promise. Il naît dans ce contexte extraordinaire où tout à coup l'invasion inévitable est évitée. Et on dit de lui qu'il se nourrira de lait et de miel, et il reviendra au jardin originel, là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avant même que l'enfant atteigne l'âge de raison et sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvantent sera abandonnée, dit le prophète. Et oui, la coalition contre Jérusalem sera vaincue par une épidémie qui vient à point nommé. Le petit enfant qui naît dans ce contexte historique est évidemment vu comme un signe de sollicitude de Dieu à l'égard de son peuple. Ce signe, c'est celui qui sera identifié à Jésus des siècles plus tard. Les récits qui entourent sa naissance se transforment alors en une compilation de textes prophétiques pour évoquer la polysémie de cette naissance bien humaine. Dans l'adversité, Jésus fait signe. Je dirais même qu'il doit être signe de Dieu avec nous, dans le récit biblique. Alors, la langue du salut se met à parler et les motifs se succèdent. La Vierge enfante, un enfant mâle naît, ce qui, en ces temps-là, est signe de continuité de la maison de David. Et ce signe de la présence de Dieu est donné à Joseph en rêve, contre sa volonté donc. Comme avec le roi Achaz, à qui Dieu avait dit « Demande un signe à ton Seigneur ». Ce qui revenait à dire à Achaz « Place enfin ta foi en Dieu, fais-lui confiance ». Les récits d'enfance des évangiles de Matthieu et de Luc semblent à première vue répondre à la question de la divinité de Jésus et alimentent les débats pour savoir s'il s'agit de la description de faits surnaturels ou s'il s'agit d'une rhétorique prophétique purement symbolique qui ne doit pas nous faire croire au mystère là où il n'est question que de motifs littéraires. Que la Vierge enfante et que l'enfant s'appelle Immanuel, Dieu avec nous, dans l'annonce faite à Joseph, alors que l'enfant s'appellera Jésus, Dieu sauve, dans tous les autres récits touchant à son histoire, ne doit pas nous éloigner de la magnifique promesse que ces récits nous adressent dans leur réécriture même. Les rédacteurs qui réécrivent la vie de Jésus dans la tradition prophétique qui est la leur sont des passeurs de foi, et même des passeurs de signes. Il nous parle de cet effort sans cesse recommencé pour dire l'amour de Dieu pour l'humanité à travers une tradition textuelle riche de la foi d'une multitude qui a cru avant nous et qui a cru que Dieu était avec nous dans l'épreuve. Un homme signe. Quoi de plus éloquent que la venue d'un homme au monde pour parler à une humanité en proie au doute et à la peur? Le texte d'Ésaïe parle même d'épouvante en voyant les Assyriens arriver. Et sans doute les disciples de Jésus auront vécu eux aussi des peurs effroyables. Alors ceux qui attendaient la venue du Messie avaient leurs propres peurs eux aussi. Quoi de plus compréhensible qu'un homme pour parler de la présence de Dieu dans nos vies humaines? Les plus rétifs à cette idée qu'une vie humaine puisse se vivre comme un signe pour l'humanité penseront que l'on voit des signes là où l'on veut bien les faire exister. Comme Ernest Renan qui écrit dans sa « Vie de Jésus » à propos de l'interprétation de Jésus de son propre nom, « Les natures ardentes ne se résignent jamais à voir un hasard dans ce qui les concerne. Tout pour elles a été réglé par Dieu et elles voient un signe de la volonté supérieure dans les circonstances les plus insignifiantes. » Voilà ce qu'on peut lire dans la vie de Jésus écrite par Renan. « A-t-on par excès d'exaltation tiré du côté du merveilleux la vie d'un homme qui, somme toute, était assez banal, sans doute pour son époque ? Je ne sais pas. Mais sans doute y a-t-il plus dans les récits d'origine de Jésus, pour les lecteurs du XXIe siècle que nous sommes, que la simple alternative entre croyance superstitieuse au merveilleux ou affadissement rationaliste de récits qui ont traversé les siècles. Ce que disent les évangiles en reconstruisant une naissance de Jésus à partir de la tradition prophétique, c'est que Dieu propose un signe à l'épreuve de notre foi et que ce signe n'est pas un symbole ésotérique ni un tour de magie, mais un homme, un humain comme nous. La naissance d'un enfant, d'un petit homme, devient à la lumière d'une tradition séculaire un signe de salut qui nous est adressé. Venir au monde revient alors à déclarer que Dieu est avec nous. C'est le signe d'une compréhension particulière de notre condition humaine qui est alors proposée ici. Nous ne sommes pas seuls dans notre condition humaine. Dieu y est avec nous. Comment comprendre cette présence de Dieu à nos côtés? Puisque Dieu ne peut être Dieu s'il devient comme nous, comment pourrait-il être avec nous dans notre condition sans perdre sa condition divine? Ce problème de l'incarnation a animé tous les débats et déchaîné les conciles. On a cherché en Jésus le signe d'une humanité divinisée. On l'a pris pour Dieu lui-même. On a d'ailleurs inventé toutes les hérésies possibles autour de ce débat, entraînant sa mère, Marie, dans les méandres théologiques de la recherche de la vraie nature de Jésus. On a cherché à faire un système à trois termes, Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint, pour rendre compte des relations qu'entretenait Jésus avec son Dieu, sans parler beaucoup d'ailleurs de sa foi, mais en cherchant des preuves naturelles de son origine divine. Et en multipliant le divin, on s'est beaucoup battu autour de la naissance d'un homme qui devait être le signe de la paix promise aux hommes. Dieu avec nous. Alors comment comprendre cet Immanuel, ce Dieu avec nous? Sans doute les récits contenus dans les évangiles nous y aideront. sur tous ceux que nous gardons en mémoire bien après les avoir lus ou les avoir entendus raconter par d'autres, comme autant de témoignages de foi. Ces récits où l'homme paralysé est exhorté à la vie par un « lève-toi et marche », où la femme qu'on veut lapider entend cette parole de mansuétude « moi non plus, je ne te condamne pas », où cet enfant qui est mort se redresse au son de cette phrase « Talita cum, éveille-toi », ou encore ce où Jésus n'est pas puissant, mais faible comme tout homme, et demande « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et celui où, pris à partie par la détresse de son ami Marthe, il s'entend dire comme un reproche « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Dans tous ces récits, et la liste n'est jamais exhaustive, car elle est composée par la foi de chacun, la présence de Dieu se fait toute proche de nos vies humaines. Dieu est là dans nos peurs, dans nos faiblesses, dans nos résurrections et dans nos deuils, dans nos élans de courage pour nous remettre debout. Et pourquoi croyons-nous qu'il est là ? Parce qu'un homme a cru avant nous à sa présence quotidienne et profane, et qu'il a vécu cette foi en faisant rejaillir sa confiance sur la vie de ceux qu'il rencontrait. Jésus a vécu de cette foi-là, et c'est ainsi qu'il a été, par sa foi, Dieu avec nous. Cet homme-là, ce Jésus, celui que l'on fait naître comme un signe de paix au milieu des vies tourmentées de ses contemporains, nous sommes appelés dans la foi à lire les signes que Dieu nous donne pour nous offrir son alliance de paix. Nous sommes appelés à lire notre propre vie comme un signe de la présence de Dieu à nos côtés dans ce monde. Et ce n'est pas le fait d'une nature ardente, comme disait Ernest Renan, que de penser les choses ainsi, mais bien plutôt le fait d'une acceptation du cadeau ineffable que Dieu fait à l'homme en lui donnant un vis-à-vis qui lui permette de comprendre sa vie autrement que comme un hasard et l'aide à naître à lui-même en choisissant le bien et en rejetant le mal, en choisissant l'espérance quand il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. Comme la naissance du fils d'Akaz représentait plus qu'un simple hasard pour ceux qui l'ont vu naître, notre vie est plus précieuse aux yeux de Dieu qu'un simple accident de l'histoire. Dieu est avec nous. Jésus est l'Immanuel, parce que le récit de sa vie fait signe à notre humanité et nous annonce le règne de Dieu, toujours possible, toujours là devant nous. Un Dieu qui ne nous lâche jamais, même quand la foi vacille et qu'on pourrait le croire absent. Un Dieu avec nous. Amen.
Thank you.
Merci beaucoup au cœur de l'oratoire du Louvre. Je passe la parole à Aurore Sagliot-Thébeau, notre présidente du Conseil presbytéral.
Merci Béatrice. Merci à vous. C'est les joies du direct. Donc David n'a pas pu venir avec nous, a été coincé dans un RER. Sarah a couru tout ce qu'elle peut pour être là. Le cœur a répondu présent il y a 2 jours. Et je viens d'apprendre que le Conseil d'État venait de rejeter la jauge de 30 personnes. Donc, adaptons-nous en direct et surtout. Ce qui est important, c'est que nous soyons avec vous. C'est vraiment là l'essentiel et je pense que Béatrice nous a rappelé l'essentiel. Donc, en termes d'annonce, c'est évident que nous ferons la pause spirituelle. Nous continuerons pour le moment tout en distanciel. Nous attendrons des nouvelles. Si le cœur peut revenir avec nous dimanche prochain, ça sera avec joie. Je ne sais pas qui sera l'organiste la semaine prochaine, mais je suis sûre que l'esprit de solidarité fera que nous en aurons un. Vraiment, merci à tout le monde. Vous avez, en termes de publication, reçu normalement la lettre d'activité financière. Nous recevons de l'imprimeur mardi la feuille rose qui sera mise sous pli mardi après-midi. Je remercie l'équipe de bénévoles qui a déjà répondu présent pour nous mettre sous pli cette feuille rose. Également, nous allons essayer d'organiser un Noël pour le 13 décembre. Nous ne savons pas si nous serons en présentiel ou en distanciel pour les enfants. Donc l'équipe des moniteurs de l'éducation biblique et les pasteurs sont déjà en train de travailler sur une vidéo pour permettre d'enregistrer quelque chose au cas où nous ne pourrions pas nous retrouver tous ensemble. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup. Dernière chose, pardon, Jean-Pierre Rive est parti. Nous avons fait une petite vidéo de son départ. Le lien, les joies de la technologie aussi, ne marchait pas sur la première newsletter. Vendredi dernier, le lien à nouveau marche. Donc si vous voulez voir Jean-Pierre et Geneviève vous dire au revoir, vous pouvez appuyer sur le lien de la dernière newsletter qui est partie vendredi. Merci à tous.
Merci beaucoup, Aurore. Voilà, c'est un moment d'offrande et je passe la parole à ma consœur pour ce moment d'offrande.
Un petit geste de rien du tout, mais qui peut quand même faire de grandes choses. Souvenons-nous simplement que notre offrande ne pourvoit pas seulement à des besoins humains, elle est aussi une source d'action de grâce envers Dieu et un signe parmi d'autres, mais un signe de nos convictions, de notre engagement et surtout de notre reconnaissance. Alors, frères et sœurs, c'est le moment du don joyeux.
Alors peut-être pendant cette offrande, nous allons écouter Sarah, si elle peut accompagner ce temps pour que chacun ait le temps chez lui de méditer à cette question et surtout de faire le geste qui permettra à notre Église de continuer à annoncer l'Évangile.
Unissons-nous dans la prière. Éternel Dieu de la vie, nous voici devant toi tels que nous sommes. Et tu vois nos portes fermées, celles des dépendances qui nous paralysent, celles de toutes les ruptures et des liens qui se brisent. Donne-nous la force de frapper encore et ravive en nous l'espérance qui s'endort.
Tu vois nos portes fermées, celles de la maladie qui nous ronge lentement, celles de la souffrance qui nous habite constamment, celles de la mort qui nous entoure de toutes parts. Donne-nous la force de frapper encore. Ravive en nous l'espérance qui s'endort.
Tu vois nos portes fermées, celle du travail que l'on ne peut pas avoir ou que l'on vient de perdre, celle de nos attentes et de nos espoirs déçus. Donne-nous la force de frapper encore, ravive en nous l'espérance qui s'endort.
Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés. Toi qui peux faire sauter tous les verrous, aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Remplis-nous de courage et de sérénité. Donne-nous la force de frapper encore. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Amen.
Ensemble, nous te confions celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous rassemblons dans celle de Jésus, le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.